Elles mangèrent pour se réconforter, puis Amy longea la muraille de ronces à la recherche d'un passage permettant de traverser l'obstacle. Il n'était guère envisageable de s'y jeter tête baissée, car les épineux avaient tissé une formidable pelote dont les ramifications n'auraient pu être tranchées qu'à coups de faucille, instrument dont les jeunes femmes se trouvaient dépourvues. Le vieux avait raison, admit la fille aux cheveux rouges. Sans une bonne armure, la traversée est impossible. Du moins, si l'on ne veut pas finir écorchée vive. Alors qu'elle s'apprêtait à rebrousser chemin, elle avisa un curieux dessin sur le sol. Quelqu'un avait rassemblé des cailloux de manière à former une flèche approximative. S'agirait-il d'un message du lutin ? Se demanda Amy. M'indiquerait-il la direction à suivre ? Un peu plus loin, un autre signe de piste lui ordonna de bifurquer à gauche. Elle obéit, mais se retrouva une fois encore face à la muraille de ronces. Toutefois, en y regardant de plus près, elle réalisa qu'un buisson rapporté dissimulait un étroit passage serpentant au sein de l'enchevêtrement d'épines. Il suffisait de déplacer cette pelote hérissée de piquants pour démasquer le passage secret. « Parfait, » murmura-t-elle. « Puisqu'un bon génie veille sur nous, il serait stupide de ne pas en profiter. » Elle retourna chercher les billes et lui exposa la situation. « D'accord, » capitula l'infirmière. « Je suppose qu'on n'a pas le choix, hein ?»« Non, » fit Amy. « Je suis incapable de retrouver le chemin d'Homes Gate et je ne voudrais pas m'égarer dans les vasières du vieux Jack, car qui dit vasière dit sable mouvant. » Ramassant leurs musettes, elles gagnèrent l'entrée du tunnel d'épines et se faufilèrent dans l'étroit sentier ouvert à la faucille. Elles devaient avancer courbées, car le passage semblait avoir été taillé par un enfant, un nain ou un lutin. Elles ne cessaient de jurer, car leurs vêtements s'accrochaient aux piquants. Au bout d'une trentaine de mètres, elles étaient couvertes d'estafilade. Elles émergèrent alors de la haie de ronces pour déboucher dans une clairière au centre de laquelle se dressait un gros arbre. Une forme se balançait à l'une des basses branches. Amy crut d'abord qu'il s'agissait d'un sac ou d'une outre en peau de chèvre. En s'approchant, elle reconnut le chien Borg de Muddy Jack. Il tirait une langue énorme. On l'avait pendu. Libby laissa échapper un gémissement. « Encore un tour du lutin » lança-t-elle d'une voix coassante. Décidément, il m'est de moins en moins sympathique. Amy lui fit signe de se taire, car elle était persuadée que leurs bienfaiteurs les observaient à l'abri des buissons. Elle ne tenait pas à le mécontenter. Elle avait vu ce dont il était capable avec une fronde. Au pied de l'arbre, une nouvelle croix de cailloux indiquait la direction à suivre. Elle obéit sans chercher à réfléchir ni à regarder par-dessus son épaule. Au point où elle en était, elle ne pouvait s'offrir ce luxe. Ses égratignures la démangeaient, elle aurait donné n'importe quoi pour une baignoire d'eau chaude et un morceau de savon. Elle suivit le sentier au milieu des hautes herbes. Remarquant des rosiers retournés à l'état sauvage, elle comprit qu'elle se déplaçait au milieu des vestiges d'un parc. Son cœur fit un bond. Le jardin du château, haleta-t-elle en serrant l'épaule de Libby. Ça y est, nous sommes arrivés. Ses formes enveloppées de lierre, c'est un portique. Et là, une gloriette. Ashdon nous attend, de l'autre côté de ses arbres. Pour un peu, elle aurait couru. Elles durent encore piétiner dans les ronces pour sortir de la végétation. Le rideau dit franchi, elles se retrouvèrent en face d'une esplanade occupée par une douzaine de grandes tentes de toile grise qui faisaient dans le vent. Un campement militaire, balbutia Libby. Attends une minute, ce n'est peut-être pas le moment de se faire repérer. Amy jugea plus prudent de mettre un genou en terre et de prendre le temps d'examiner les lieux. Le camp de toile occupait ce qui avait jadis été la cour d'honneur du château. On y distinguait une grande fontaine agrémentée de tritons et de dauphins aujourd'hui couverts de mousse. Derrière le bassin s'étendait un champ de ruines noircies. Un enchevêtrement de poutres carbonisées de clochetons effondrés. La suie et la fumée avaient habillé d'une peluche noire les statues bordant la balustrade d'honneur. Un grand silence régnait sur ce paysage dévasté, seulement troublé par les sifflements du vent. Pas l'ombre d'une sentinelle, fit observer Libby. On n'entend rien. Il n'y a personne. C'est bizarre. Amé était en train de se faire la même réflexion. Elle avait beau scruter les allées séparant les tentes, elle ne voyait pas âme qui vive. Aucun camion, pas le moindre poste de DCA, pas davantage de bivouac, de caleçons séchant sur un fil ou de fusils en faisceau. Il n'y avait que cette tente grise distendue par les bourrasques. Un camp militaire abandonné ? Peu probable. Il y aurait un mât, se dit-elle, avec les couleurs du bataillon. Plus elle y réfléchissait, plus l'endroit évoquait pour elle un campement fantôme dont les occupants se seraient évaporés. « Qu'est-ce qu'on fait ?» chuchota Libby. « Je suis gelée, je meurs de faim. En bas, on trouvera quelque chose à se mettre sous la dent. On jette un coup d'œil ?» Elles sortirent de leur cachette et s'avancèrent à pas lents vers l'étrange camp de toile. Amy ne pouvait se résoudre à lancer le traditionnel « Anybody home » cher aux Anglais, tant l'endroit lui paraissait insolite. Elle s'engagea dans la travée centrale, puis, n'y tenant plus, se dirigea vers l'une des tentes et s'y glissa. Elle s'immobilisa aussitôt sur le seuil, les sourcils arqués par la stupeur. Elle venait d'entrer dans un salon de musique du XVIIIe siècle, avec clavecin, tabouret de velours, table de marqueterie, chandelier, miroir aux encadrements dorés à la feuille. Oui, un salon de musique d'une grâce exquise, à cette différence près que tout y était, rafistolé, brisé, recollé, roussi ou à demi brûlé. Il s'agissait à l'évidence d'une tentative de reconstitution, élaborée à partir d'éléments de mobilier récupérés dans les décombres du castel. On avait dépensé des trésors de temps et d'énergie à réparer ces objets ravagés par la catastrophe. Amy s'approcha du clavecin, en effleura les touches. Aucun son ne s'échappa de l'instrument dont la mécanique avait été broyée. Un clavecin empaillé, songea-t-elle, sans savoir d'où lui venait cette pensée saugrenue. Pivotant sur ses talons, elle avisa une cheminée de marbre blanc composée d'une multitude de fragments collés les uns aux autres. Un véritable puzzle sur lequel trônaient deux vases précieux également reconstitués à partir de miettes de porcelaine éparse. Les miroirs, les tableaux, les sièges, tous avaient subi la même intervention. Telle Isis, inventant la première momie à partir des débris d'un cadavre jeté dans le Nil, l'auteur de cette restauration avait dû passer des jours entiers à jongler avec un gigantesque puzzle. Amy ne put déterminer s'il fallait admirer là l'œuvre d'un artiste accompli ou s'effrayer devant la démarche obsessionnelle d'un maniaque guetté par la démence. Picabou, souffla Libby. C'est quoi ce machin ? Amy haussa les épaules en signe d'ignorance. Sur le clavecin, les partitions déchirées avaient été rapetassées au moyen de bandelettes enduites de colle. Il se dégageait du lieu une atmosphère morbide qui serrait la gorge. « J'ai l'impression d'être au fond de la mer, » songea Amy, en train de visiter l'épave d'un paquebot englouti pendant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Elle sortit, aspira une bouffée d'air frais et pénétra dans la tente voisine. Au cours de la demi-heure qui suivit, elle se promena ainsi au milieu d'une dizaine de reconstitutions. Il y avait une chambre à coucher, avec son lit à baldaquin, une bibliothèque dont les rayonnages hébergeaient des centaines de livres à demi carbonisés, un boudoir féminin aux vitrines encombrées de délicates porcelaines, un fumoir où s'alignait une profusion de bustes antiques. Dans la plupart des cas, le restaurateur s'était appliqué à nettoyer les objets, à les débarrasser de leur croûte de carbone. Néanmoins, Le feu avait laissé son empreinte sur les meubles, les étoffes, les sculptures. Outre une tenace odeur de fumée, ils conservaient dans leurs plis, leurs fissures, leurs déchirures, d'infimes traces noires qui évoquaient le deuil. Des bêtes vicieuses, songea Ami, des chiens attendant le moment propice pour mordre la main qui les nourrit. Fauteuil, sofa, clavecin, guéridon, il tenait debout, certes, mais comme une momie raidie de bitume, enveloppée de bandelettes, peut rester dressée contre un mur, moins par volonté propre que sous l'effet d'une rigueur mortis née de la science des embaumeurs. Qui a pu faire ça, c'est ton alibi. C'est un travail de dingue. Je viens de compter les morceaux qui composent ce vase. Il y en a 109. Tu imagines le temps qu'il a fallu pour les assembler? Renonçant à visiter les autres tentes, Ami se dirigea vers la fontaine. L'énorme monument de bronze, défiguré par la mousse et les lichens, avait lui aussi un faux air d'épave. Les dauphins à la gueule béante semblaient prêts à mordre. La jeune femme le contourna. Elle voulait contempler les ruines du château. D'Ashdon subsistaient 4 pans de murs troués de fenêtres ogivales. À l'intérieur de ce quadrilatère s'entassait une invraisemblable profusion de poutres goudronneuses dont la forme générale évoquait celle d'une coque de voilier retournée qui y en l'air. Ami eut l'impression de contempler un piège aux mâchoires béantes, un piège qui s'empresserait de la broyer dès qu'elle commettrait l'erreur d'y poser le pied. « Ne t'avise surtout pas d'entrer là-dedans, lui souffla Libby. Ce foutoir te tombera dessus au premier faux pas. » Désorienté, Ami décida d'explorer les deux dernières tentes. Dans la première s'entassait un fouillis de plans, de lampes, de piolets, qui donnait à penser qu'une équipe de spéléologues avait pris ses quartiers au château. Dans la seconde, elle trouva un unique lit de camp, une table de toilette et une malle-cabine, le tout en pestant la sueur et la chaussette moite, le dortoir de collégiens. Une planche jetée sur des tréteaux tenait lieu de bureau. Elle était encombrée de manuscrits, de bleus d'architecte annotés d'une écriture prétentieuse. Dans un cendrier, une pipe attendait le retour de son propriétaire. Du petit linge séché sur une cordelette, Ami le toucha, il était humide. « Quelqu'un vit ici, conclut-elle, tout seul. Je ne sais pas ce qu'il cherche, mais il y met tout son cœur. » Ne voulant pas être indiscrète, elle sortit. Ses pas la menèrent au bord des ruines. Elle luttait contre une affreuse sensation de découragement. Elle avait espéré qu'une fois parvenue à Ashdown Castle, le mystère s'éclaircirait de lui-même en un claquement de doigts et qu'elle éprouverait cette fameuse impression de « rideau qui se lève » dont lui avaient parlé les médecins. Or, il n'en était rien. L'endroit n'éveillait en elle aucun souvenir. « Si je ne trouve rien ici, se dit-elle, je n'aurai plus qu'à m'évaporer dans la nature. Tant pis, j'ai fait ce que j'ai pu. » Devait-elle s'en désoler ou s'en réjouir? Tout à coup, un bruit d'éboulis se fit entendre au cœur des ruines. Ami se figea, cherchant à localiser l'origine du fracas. Lentement, une forme émergea des poutres carbonisées. Il s'agissait d'un homme habillé en mineur, un casque sur la tête, et qui traînait un sac rempli de débris cliquetants. Il se déplaçait selon un curieux itinéraire, évitant sans doute les zones susceptibles de s'ébouler. Quand il atteignit enfin l'esplanade, Ami distingua une longue figure maigre, très anglaise et plutôt maladive, qu'enlaidissait une vilaine petite barbiche. L'inconnu affichait la trentaine, son corps décharné flottait dans des hardes noircies. Il eut un sursaut en découvrant les jeunes femmes plantées devant la fontaine. Un moment, il parut sur le point de s'enfuir, puis, combattant son premier réflexe, laissa tomber le sac, ôta son casque et s'avança en souriant. La sueur lui collait les cheveux sur les tempes et le front. Ses pommettes trop saillantes lui dessinaient un sourire de squelette. Néanmoins, lorsqu'il prit la parole, ce fut pour s'exprimer avec l'accent d'Oxford et la nonchalance d'un jeune lord. « Je suis désolé de m'exhiber devant vous dans cet appareil, » nasilla-t-il avec cette inimitable diction Oxbridge signalant la pointe extrême du snobisme. Permettez-moi de me présenter puisque personne ne peut le faire à ma place. Angus Edmund Percival Mountshenton, membre de l'Académie royale des beaux-arts, section architecture, en mission d'études à Ashden. On avait fini par l'oublier, du moins il le pensait. Voici ce qui ressortait des propos que l'énergumène tint aux deux femmes lorsqu'il eut repris visage humain, noué une cravate et préparé du thé. Ils étaient tous trois assis autour d'une table pliante de safari, sur des tabourets de sangle en cuir de buffle, devant la fontaine, tandis qu'Angus faisait le service, versant le thé rouge dans des tasses délicates exhumées de la mâle cabine. « J'avoue que j'ai perdu la notion du temps, » avoua-t-il avec un rire hautain. « Je m'intéresse fort peu à ce qui se déroule hors des limites du château. Le courrier n'arrive pas jusqu'ici, et je descends rarement au village. J'ai tellement travaillé ces derniers mois que je suis dans un état d'épuisement avancé. Mais il y a tant à faire. Je tremble à l'idée qu'une paire de sergents recruteurs pourrait débarquer ici un beau matin pour m'incorporer de force dans l'armée. Non pas que je redoute d'aller me battre, non, mais cela impliquerait que j'abandonne ma besogne de reconstitution, et cela je ne puis l'envisager. Ce serait horrible. À l'idée de devoir tout laisser là, sans surveillance, je deviens fou. Une tempête pourrait arracher les tentes, exposer les objets aux intempéries. Non, non, ce serait atroce. Sa voix avait grimpé dans l'aigu et il se tordait les mains. Une fois peigné, il était loin d'être laid, et cela en dépit de sa maigreur. Des tics déformaient son visage, trahissant un grand désordre intérieur. « Pour me rassurer, je me dis qu'on m'a oublié, » reprit-il. « De nos jours, qui se soucie d'un historien frotté d'architecture qui a choisi de vivre en ermite dans les décombres d'un château ? Je vous le demande. Quant à ma famille, me sachant inapte à la vie réelle, je pense qu'elle préfère me savoir ici plutôt que déguisée en soldat, dans un uniforme de confection, aux prises avec des contingences auxquelles ne m'a pas habituée mon éducation. Je ne saurais me comporter au milieu des rustres issus de Limehouse, et je n'ose imaginer ce qui se passerait si je devais obéir aux ordres d'un sergent né à Clapham. Ce serait le monde à l'envers. » Il parlait vite, s'interrompant pour tousser. Il avait accueilli avec une rare crédulité la fable des infirmières perdues dans la forêt au cours d'un pique-nique troublé par les bombardements. Il était d'une politesse exquise. Il proposa aux invités de s'installer dans la tente atelier où il entassait son matériel d'exploration. Il disposait de plusieurs lits de sangle, ayant jadis envisagé d'entraîner d'autres étudiants dans sa folie. Ces demoiselles pouvaient en disposer à leur guise. Puis il recommença à tousser et prit congé. Il était épuisé, et il lui fallait prendre du repos, ou bien il allait s'effondrer à leurs pieds, ce qui serait gênant pour tout le monde, n'est-ce pas ? Multipliant les courbettes, il disparut dans sa tente, abandonnant Amy et Libby face à la théière encore chaude. « Drôle de type, » murmura l'infirmière, « mais beau gosse. Dommage qu'il soit à moitié crevé. »« Tu penses que ?» s'étonna Amy. « Mais oui, » fit la grosse fille. Il s'en va de la poitrine. C'est pour ça que l'armée n'est jamais venue le chercher. Elle a choisi de le laisser mourir ici au milieu de l'humidité des bois. À ce train-là, il ne fêtera pas Noël. Amy et sa compagne décidèrent d'aller se coucher, elles aussi. Comme elles étaient fatiguées et que le jour baissait, elles déplièrent les lits de camp. Dans une caisse, elles trouvèrent des sacs de couchage militaires dans lesquels elles s'empaquetèrent. Libby s'endormit tout de suite, mais Amy, contrairement à ce qu'elle prévoyait, ne trouva pas le sommeil. Elle éprouvait une excitation étrange à camper ainsi au cœur des ruines d'Ashden. À plusieurs reprises, elle détecta des frôlements autour de la tente, comme si quelqu'un s'amusait à en caresser la toile du bout des doigts. Il ne pouvait en aucun cas s'agir d'Angus. Qui alors? Le lutin de la forêt? Celui qui les avait tirés du four de potier avant de pendre le chien du vieux Jacques? Elle fut tentée de bondir hors de l'abri de toile pour saisir le plaisantin en collet. Un reste de prudence l'en dissuada. Elle finit par s'assoupir tandis qu'au loin retentissait l'agaçant petit rire.